BFM Radio. Les grands débats. Arnaud Fleury.
Les grands débats, bonjour et bienvenue pour deux heures d'idées, d'opinions et d'analyses au programme aujourd'hui dans une heure, direction Francfort, vroom vroom, nous partirons au salon de Francfort, le salon de la renaissance pour l'industrie automobile, boosté par la prime à la casse. Le salon également de la voiture hybride et de l'électrique. Les constructeurs qui parient et présentent moult prototypes qui parient sur l'électrique. Un pari coûteux qui suscite bien des questions. Ça sera dans une heure. Mais tout de suite, on va revenir sur le feuilleton du désormais célébrissime projet de loi Hadopi contre le téléchargement illégal qui reprend aujourd'hui à l'Assemblée avec le vote solennel du texte. Le projet Hadopi et sa sanction graduelle censurée par le Conseil constitutionnel après Hadopi 1, Hadopi 2, alors que l'on parle déjà d'Hadopi 3. Pour en parler, j'ai invité Franck Riester, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes député maire UMP de Coulommiers, en Seine-et-Marne, et rapporteur de cette loi création et Internet. Merci d'avoir accepté mon invitation, le vote solennel, donc prévu cet après-midi, si tout va bien, parce qu'il y a eu tellement de contretemps dans cette loi. Bonjour Vincent Frère-Beau.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'Union des producteurs phonographiques français indépendants, fondateur d'un label, tôt ou tard, et puis producteur, entre autres, de Thomas Fersen ou de Vincent Delerme. Ben, vous êtes favorable à cette loi. Seule manière, estimez-vous, de contrer le téléchargement illégal qui va à l'encontre des intérêts des producteurs et puis de toute la profession plus largement. Bonjour Philippe Aigrin.
Bonjour.
Vous êtes fondateur de la Quadrature du Net. C'est un des collectifs qui s'est opposé à la loi Hadopi. Vous êtes spécialiste d'Internet. Alors vous venez plutôt du monde du logiciel libre et puis du logiciel libre à l'échange entre pairs. Il n'y a qu'un pas. Vous êtes plutôt favorable à cela aujourd'hui et vous êtes favorable à ce qu'on appelle, on va y revenir, une contribution financière créative qui n'est pas tout à fait la taxe globale dont on parle également beaucoup mais qui s'en rapproche à bien des aspects. Allez Franck Riester, cette fois on peut s'attendre le vote solennel, ça y est, la majorité comme un seul homme devrait donc se prononcer en faveur de ce texte qui aura causé bien des soucis à la majorité et à Nicolas Sarkozy. Faut-il rappeler le camouflet d'Hadopi 1 et les socialistes qui avaient fait intrusion en quelque sorte dans l'Assemblée pour faire rejeter ce texte qui devait passer à main levée devant seulement quelques dizaines de députés, on s'en souvient tous, et puis les malheurs du texte devant le Conseil constitutionnel. Cette fois, c'est la bonne.
Oui, alors il y a eu effectivement quelques rebondissements dans ce projet de loi Hadopi. Le projet de loi qui a été quand même validé à 80% par le Conseil constitutionnel, promulgué sur toute la partie prévention, pédagogie, pour expliquer aux Français qu'on ne fait pas ça, tout ça pour les embêter, qu'on ne fait pas ça pour embêter les internautes, mais qu'on fait ça pour lutter contre le téléchargement illégal dans notre pays qui mine la création, qui mine les filières culturelles de notre pays. Et tout à l'heure, nous aurons à voter la partie sanction, qui est la deuxième partie du texte sur la suspension de l'accès Internet, qui, parce que le Conseil constitutionnel l'a décidé, devra être passé par les fourches d'un juge. C'est le juge qui prononcera la sanction de suspension et puis l'autorité administrative indépendante, l'Hadopi, comme on l'avait imaginé lors du premier texte.
Voilà, absolument. Ça, c'était donc la grande différence entre Hadopi 1 et Hadopi 2. C'est effectivement la partie centrale, mais c'est celle-là qu'on avait retenue, évidemment, la partie centrale répressive du texte. Comment couper à Internet un téléchargeur qui fait dans l'illégalité...
Mais qui est récidiviste, c'est ça qui est très important.
Oui, mais ça, on va parler effectivement de la sanction graduelle. Alors juste pour que nos auditeurs comprennent bien, qu'on soit complet, un juge unique, ça veut dire qu'il ne serait pas devant un tribunal correctionnel, si je comprends bien, Monsieur Riester, et ce serait donc une procédure simplifiée et allégée, c'est ça
Oui, alors il y aura la possibilité pour le ministère public d'utiliser les ordonnances pénales, donc avec un juge unique, mais à partir du moment où l'internaute désire avoir un jugement prononcé par plusieurs juges, par le tribunal correctionnel, à ce moment-là, il le demande et le ministère public le mettra en œuvre.
Bon, alors on va lancer le débat. Philippe Aigrin, est-ce que là vous êtes un petit peu rassuré? Vous voyez dans Hadopi, à travers votre collectif, la Quadrature du Net, une intolérable atteinte aux libertés fondamentales. RSF, Reporters sans frontières, pense de même, par exemple. Il voit une atteinte à l'expression. Est-ce que malgré tout, vous n'êtes pas un peu rassuré avec la mouture Hadopi 2, c'est-à-dire que c'est un juge et c'est donc pas une autorité administrative qui décidera de couper le fil de l'auditeur de manière graduelle, nous sommes d'accord.
Je suis doublement inquiet.
Je suis inquiet d'une part parce que on n'a pas écouté ou lu de travers la décision du Conseil constitutionnel qui imposait effectivement de remettre une décision judiciaire. Mais la façon dont l'a fait, c'est de créer une procédure qui va s'appliquer dans l'immense majorité des cas, qu'il y ait une procédure qui rend le juge infirme dans sa capacité à juger de la culpabilité ou de l'innocence des personnes qui sont accusées. Et je trouve que cette tricherie avec l'esprit de la décision du Conseil constitutionnel va en réalité faire courir aux libertés, aux droits fondamentaux, notamment à la présomption d'innocence, des risques plus importants que la DOPI. Hein.
Ah, c'est encore plus important pour vous qu'à DOPI. Hein.
Bon, pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'Internet, là. Ouais. Il s'agit d'une extension générale de la procédure des ordonnances pénales à des domaines qui sont d'une nature où, pour lesquels ils n'ont jamais été employés et où la jurisprudence constitutionnelle dit qu'elles ne peuvent pas l'être.
Bon, on va faire réagir Franck Riester, mais juste avant, peut-être Vincent Frère-Beau, vous avez entendu, pour Philippe Aigrin, c'est presque plus attentatoire encore aux libertés publiques, cette version Adopi 2, donc le recours à un juge unique face à une autorité administrative. Votre réponse?
Moi, ma réponse, elle est hors ce contexte-là, parce que je suis pas le législateur. Moi, je suis producteur de musique et je les représente, les producteurs de musique. Donc, et je représente par ailleurs la communauté.
Oui, mais j'aimerais bien avoir votre sentiment quand même. Est-ce que pour vous, on est aujourd'hui dans quelque chose qui est plus dans le cadre de la défense de l'expression, de la libre expression, en
quelque sorte. Écoutez, il me semble, d'une part, et d'autre part, je rebondis sur ce que Franck Riester disait il y a deux secondes, c'est dans cette loi, il y a un côté préventif. On a besoin de bâtir quelque chose pour amener les gens vers une opération, entre guillemets, légale en ligne pour permettre de développer un marché de musique en ligne, et pas que de musique en ligne, de la culture en ligne de façon générale.
Ouais.
Et cette loi, comme le disait Franck Riester tout à l'heure, elle amène cette notion-là un petit peu en douceur, parce que elle l'amène, comme dans d'ailleurs aucun autre secteur, elle l'amène de façon graduée, avec un premier mail d'avertissement, puis un courrier d'avertissement. Enfin bon, bref, on ne se fait pas prendre et sanctionner dès la première fois, on amène à la réflexion avant.
Bon, ben ça, on va évidemment se pencher là-dessus, parce que ça pose beaucoup de questions, et certains estiment que ce sera très compliqué à mettre en place. Alors juste d'abord, Franck Riester, pour répondre quand même à Philippe Aigrin tape dur quand il dit que c'est presque pire en quelque sorte qu'Adopien, que ce soit le juge qui prononce la sanction suprême de la coupure à
que
Internet pour le téléchargeur.
Il faut mieux entendre M. Aigrin que d'être sourd, mais enfin quand même. Que de caricature et d'excès. La quadrature du net, d'ailleurs, je le reconnais, demandait à ce que ça soit l'autorité judiciaire qui prononce la sanction.
Dans une procédure équitable.
Le Conseil constitutionnel a décidé que ça serait le cas. On le met en application. Et qu'est-ce qu'on met en place? On met en place un système qui fait effectivement la part belle à l'autorité judiciaire pour prononcer la sanction. C'est le juge qui va prononcer la sanction dans le cadre de différentes procédures, et notamment la possibilité donnée au ministère public d'utiliser une ordonnance pénale, qui est une procédure simplifiée avec le recours au juge unique. Ordonnance pénale qui fonctionne dans de nombreux autres domaines et qui est une procédure très répandue. Il est bien évident que si le juge estime qu'il n'a pas suffisamment d'éléments à travers cette procédure pour prononcer sa sanction, il pourra recourir à une enquête classique et recourir à une collégialité de magistrats. Et l'internaute, s'il estime lui aussi qu'il est nécessaire d'avoir un jugement prononcé par plusieurs juges, il suffira qu'il le demande et ça sera appliqué. Donc on voit bien que ce que dit M. Aigrin, c'est simplement pour faire peur, et qu'on est loin de ce qui est caricaturé par M. Aigrin. Simplement là, vraiment, c'est la justice, et il faut faire confiance en la justice et aux juges pour prononcer la sanction qui arrivera, comme l'a rappelé M. Frère-Beau, après multiples avertissements.
Alors, je voudrais quand même une précision. Philippe Aigrin, les députés ont voté le fait que l'on puisse quand même avoir sa boîte électronique, sa boîte mail, même si on se fait couper l'accès à Internet. Ça, est-ce que c'est rassurant ou pas?
Disons, ça serait encore plus inquiétant si ça n'y était pas. C'est certain. Maintenant, je voudrais vous préciser quand même quelque chose, c'est que peut-être est-ce que je pratique la caricature, mais le Conseil constitutionnel, dans une décision de 2002 sur les ordonnances pénales, a dit qu'elles ne pouvaient être appliquées qu'à des cas où la matérialité de ce dont on est accusé, l'identité de l'auteur, ne laissait plus place au doute, sur la base de preuves apportées par des officiers de police judiciaire, et qu'il n'était pas nécessaire d'entendre les prévenus pour juger de la proportionnalité des sanctions. Et ils ont dit que si c'était pas le cas, alors même les autres garanties dont vient de parler M. Riester ne suffisaient pas à justifier l'utilisation des ordonnances pénales. Bon, alors on verra ce qu'ils en pensent.
Bon,
maintenant,
c'est vrai que ça pose le problème de l'adresse IP, de savoir qui a effectivement sur cette adresse fraudé. C'est vrai que dans la pratique, ce ne sera pas simple. Juste avant de marquer la pause, on va se pencher sur la riposte graduée, la sanction graduée, et pourquoi vous le réclamiez, Vincent Frerbeau, pour par exemple les producteurs phonographiques français indépendants que vous représentez. Juste avant, comment ça se fait qu'en France on est tellement versé dans le téléchargement illégal plus que dans d'autres pays? Votre lecture là-dessus?
C'est une bonne question. Parce que d'abord il y a ce débat et le soutien de certains politiques qui nous a un tout petit peu désarçonné, parce que c'est un parti entre autres qui avait plutôt à cœur d'être auprès des artistes et auprès des auteurs.
Alors vous pensez au Parti Socialiste par exemple?
Oui,
alors
je pense évidemment au Parti Socialiste qui malheureusement a pris à son compte, vous savez, dans le débat politique, les gens qui savent comment ça
et
fonctionne.
Et c'est ça qui explique selon vous que le téléchargement soit illégal, soit si présent dans notre pays. C'est une question de culture aussi.
On ne peut pas évidemment mettre ça que là-dessus, mais on peut juste constater que dans certains pays la législation est entrée en vigueur, l'offre en ligne a totalement décollé.
On va marquer la pause. Effectivement, la Suède qui a lancé il y a un peu plus de 3 mois, je crois, son système qui montrerait un certain nombre de résultats. Nous marquons la pause, si vous voulez bien, et puis on se retrouve dans un instant.
Les grands débats. Arnaud Fleury sur BFM Radio.
Les grands débats consacrés à la loi Hadopi, le paquet 2 qui fait son retour devant les députés en session extraordinaire, le célébrissime projet de loi Hadopi contre le téléchargement illégal. On se souvient que la première mouture avait été censurée par le Conseil constitutionnel dans sa partie centrale sur la répression qui aurait été en quelque sorte donnée à une autorité administrative. Le texte censuré, c'est donc le juge aujourd'hui qui seul pourra décider de couper la ligne Internet au bout de toute une procédure de sanctions graduelles aux téléchargeurs indélicats. Franck Riester, député, maire UMP de Colomiers, rapporteur de la loi création et Internet. Vincent Frerbeau, vous êtes le président de l'Union des producteurs phonographiques français indépendants et fondateur d'un label, tôt ou tard. Et puis Philippe Aigrin, fondateur de la Quadrature du Net, c'est un des collectifs qui s'était opposé à la loi Hadopi. J'en profite pour dire que vous avez sorti un livre, Internet et création, chez In Libro Veritas. Philippe Aigrin, nous repartons avec vous pour entrer dans le cœur du sujet, même s'il était important, évidemment, d'évoquer la problématique de la répression pénale par le juge et non pas par une autorité administrative. Alors, Vincent Frerbeau, peut-on penser qu'avec ce texte, on va faire reculer le téléchargement illégal dans notre pays, qui est important, nous le disions avant la pause?
Vous savez, c'est extrêmement difficile d'essayer d'installer une offre en ligne légale quand elle a pour concurrence la gratuité et l'impunité. La gratuité dans l'impunité. Donc en fait, oui, on pense vraiment qu'il est urgentissime d'installer un cadre qui permette enfin de pouvoir faire démarrer cette offre en ligne, cette offre légale. Pourquoi ? Parce que l'investissement dans la création, c'est en grande partie la garantie de pérennité de la création. Et c'est extrêmement important, nous, maintenir ce niveau de création qui est en train de s'effondrer, là, pour l'instant, en France. Le nombre de contrats rendus par les compagnies de production phonographique est supérieur au nombre de contrats signés. C'est la première fois dans l'histoire.
De contrats d'artistes, vous voulez dire?
Oui, absolument. Oui. On a quand même en France, on a un niveau de production dont il faut se satisfaire, un niveau tant en quantité qu'en qualité. On est quand même le pays européen qui tient tête à l'Angleterre, qui tenait jusqu'à présent tête en Angleterre en matière de diversité, en matière de qualité de production.
Et est-ce que vous avez des projections?
Parce qu'il y avait un marché. Malheureusement, aujourd'hui, il y a un marché qui est en train de se dégrader dans tous les sens. Une offre en ligne qui peine vraiment à décoller, alors que dans d'autres territoires, je pense aux États-Unis, je pense à l'Angleterre notamment, elle décolle et elle est réellement en train de créer un marché. Nous, on est à se satisfaire un petit peu comme ça de cette, pas se satisfaire, mais on laisse aller malheureusement cette perte de capacité d'investissement dans la création, et c'est un drame. C'est un drame pour la création, c'est un drame pour les acteurs de la création, pas pour les producteurs phonographiques uniquement, mais pour les musiciens, pour les artistes, pour les techniciens, pour tous ceux qui travaillent au cœur de la création musicale et puis
faire,
du cinéma.
On va faire
également
réagir Philippe Aigrin et Franck Riester, mais juste avant, Vincent Frère-Beau, le numérique aujourd'hui c'est 17%, hein, on estime, du marché légal, hein, de la musique. On traque 83% pour le dur, hein, pour le disque, pour le CD encore. Avec Adopi, est-ce que vous avez une projection de combien ça pourrait rapporter, entre guillemets, plus à l'industrie de la musique? On peut le quantifier ou pas?
Vous savez, c'est pas compliqué. Pour l'instant, vous êtes à 17%. Ouais. Il pourrait y avoir une croissance, vu qu'on part de chiffres assez bas, on pourrait avoir une croissance à deux chiffres pendant des années, et à un moment, faire en sorte que les courbes se croisent. Aujourd'hui, le chiffre du marché physique est en dégringolade absolue. Il est en train de faire moins 20 depuis le début de l'année. C'était moins 15 l'année dernière, moins 15 l'année d'avant, etc. On est à un cumul de presque moins 60 en 5 ans. Donc, il faut que la courbe du numérique, et ça, c'est valable pour le cinéma comme pour la musique, il faut que la courbe du numérique ascendante s'accélère, c'est impératif.
Pour vous, Philippe Aigrin, c'est une escroquerie en quelque sorte de penser que c'est bon. Il y a des auditeurs qui me disent de quelle manière on arrivera toujours à contourner, hein, techniquement, Adopi, estime-t-il. Pour vous, c'est une escroquerie là de croire que ça va apporter, que ça va relancer par la sanction du téléchargement illégal une industrie malade?
Non, je ne dirais pas ça. Je dirais qu'on vise un objectif non pertinent.
Ouais.
C'est-à-dire que moi, en tant que spécialiste de l'écosystème de la création, souci que je partage avec Vincent Frère-Beau,
ouais,
mais que j'analyse à un niveau beaucoup plus général, qui n'inclut pas seulement l'économie marchande de la musique enregistrée ou des vidéogrammes. Le gouvernement a présenté une étude d'impact, comme il en avait l'obligation constitutionnelle pour accompagner ce projet, qui ne parle que de l'édition de phonogrammes et de vidéogrammes, pour un projet de loi qui va s'appliquer à tous les objets couverts par le droit d'auteur. Bon, moi, ce que je pense et que j'ai défendu, c'est qu'il existe des organisations globales de la circulation de revenus et de financement à l'intérieur de l'économie de la création, qui préserve.
Ça, on va en parler après la pause. Ça, on va en parler après la pause.
Qui sont celles que met en avant Vincent Frère-Beau pour justifier le souci de protéger à tout prix le téléchargement numérique contre une concurrence qu'il juge impossible à combattre, alors que l'expérience a montré qu'il y a beaucoup.
Mais ça, on va en parler après la pause. Non, juste avant, Franck Riester, peut-être, est-ce que cette loi va défendre la création et les revenus des producteurs, des musiciens, des interprètes?
Oui, bien sûr. Il est clair que l'avenir de la consommation de biens culturels passe par Internet.
Je suis devant.
Encore faut-il que cette consommation se fasse d'une façon légale et payante, pour que, ou en tout cas, qu'il y ait des droits qui soient respectés et que des financements aillent vers la création. Il faut savoir que le marché de la musique, Vincent en a touché deux mots, la musique enregistrée a été divisée par trois en 7 ans. Premier semestre 2002, 577 millions d'euros de chiffre d'affaires. Premier semestre 2009, 190 millions d'euros.
Oui, c'est devenu un marché minime.
Derrière, qui a, comme l'a rappelé Vincent Frère-Beau, c'est des milliers d'emplois dans la musique et dans le cinéma qui sont menacés par le téléchargement illégal. En luttant contre le téléchargement illégal, en ayant un environnement sécurisé, on va faire en sorte de déplacer la consommation illégale vers la consommation légale pour financer la création.
Eh ben, on va voir si c'est possible tout ça. Nous marquons la pause. Malheureusement, je suis obligé de vous interrompre, la dictature de l'horloge, et on se retrouve dans quelques minutes, Franck Riester.
BFM Radio, les grands débats, Arnaud Fleury.
Grand débat, on revient sur le feuilleton du projet de loi Adopi contre le téléchargement illégal qui reprend mardi, donc aujourd'hui, après moult péripéties à l'Assemblée avec le vote solennel du texte. Cet après-midi, le projet de loi Adopi, donc contre le téléchargement illégal, avec Franck Riester, vous étiez député maire UMP de Coulommiers, le rapporteur de la loi, monsieur, hein, création et internet. Vincent Frère-Beau, vous êtes le président de l'Union des producteurs phonographiques français indépendants. Vous produisez notamment Thomas Fersen ou Vincent Delerme. Eh ben, il y a une auditrice qui m'appelle depuis Nice et elle nous nous dit « Et si la production musicale faisait son boulot en produisant des vrais créateurs et pas des produits destinés à faire un maximum de profit, bah peut-être que vous, monsieur, vous êtes dans cette logique de défendre de vrais créateurs. » Philippe Aigrin, vous êtes le fondateur de la Quadrature du Net, hein, c'est un des collectifs qui s'est opposé à la loi Hadopi. Vous êtes membre de divers groupes de réflexion et vous prenez, hein, pour faire simple, on va y revenir bien évidemment, et ben vous prenez que l'on puisse avoir accès en quelque sorte au partage de fichiers, que l'on puisse monétiser, que l'on puisse vendre en quelque sorte le partage de fichiers pour pouvoir bénéficier de ce droit, eh bien l'internaute devrait s'acquitter d'une contribution financière créative. Est-ce que ça c'est une bonne idée? Qu'est-ce que vous en pensez, Franck Riester? Malgré tout, on n'est pas du tout dans votre projet de loi, là on n'est pas du tout dedans, mais que eh ben, de pair à pair, en quelque sorte, on puisse échanger un certain nombre de fichiers. Est-ce que ça ne serait pas ça la bonne solution? Beaucoup l'estiment.
Oui, bah, la solution que préconise M. Aigrin, c'est que on paye d'une manière ou d'une autre, soit à travers une taxe, soit à travers plutôt un montant forfaitaire sur son abonnement, d'une façon obligatoire, un montant qui permette de, soi-disant, financer la création en contrepartie d'une libéralisation totale des échanges sur Internet.
Absolument.
Alors, évidemment, sur le papier, c'est très séduisant, sauf qu'il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que ça casserait complètement tous les revenus de la création sur Internet et ailleurs, que ça soit dans la musique et dans le cinéma. Parce que pourquoi continuer d'aller regarder des films sur Canal+, et de s'abonner à Canal+, si on peut avoir gratuitement, payant 5 euros, 6 euros par mois sur Internet, les films, les séries sorties juste au moment de la sortie des films en cinéma? Est-ce que ça vaudrait le coup de continuer à acheter des disques physiques si on peut avoir gratuitement pour 5 euros par mois la musique sur Internet? Bref, ça casserait toute la filière de financement de la musique et du cinéma. Et donc, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ça serait impossible de redistribuer d'une façon pertinente les sommes collectées. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. Tous ceux qui sont dans ce secteur-là le disent. Donc c'est une fausse bonne idée, très séduisante, très démago, mais qui ne correspond pas aujourd'hui aux possibilités du milieu et du secteur pour financer la création.
Bon, alors quand je disais vendre, hein, il s'agit pas bien évidemment de pair à pair avant de vendre, hein, on est bien d'accord, mais quelque part ça, comme ça serait monétisé,
mais comment on le monétise?
Comme ça serait monétisé sur, a priori, sur ce qui serait téléchargé. Alors qu'est-ce que vous répondez à ça sur le volume qui serait téléchargé? Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça, Philippe Aigrin, quand on dit d'abord que c'est démagogue que deux, ça va à l'encontre de tout un système en quelque sorte qui arrivait quand même à valoriser la création artistique?
Je réponds tout d'abord, je suis ravi d'apprendre ce que je propose en vous écoutant, mais néanmoins, je n'ai pas proposé la monétisation des échanges pair à pair. J'ai proposé un pacte social entre les internautes et les acteurs de la création, dans lequel, d'un côté, on reconnaît des droits aux internautes en termes de partage de fichiers entre eux, et d'un autre côté, les internautes contribue au financement et à la rémunération de la création.
Donc ça monétise quelque part, on fait le lien, ça monétise quand même.
Et alors, ça monétise non pas directement, et ça fait une différence considérable. D'une part, parce que d'abord, j'ai proposé que 50% du produit collecté ne serve pas à la rémunération, mais au soutien à la production et à l'environnement de la création. Donc déjà, cette partie-là, on peut absolument pas considérer qu'il s'agit d'une monétisation. Et quant à l'autre, effectivement, il y aurait, dans mes propositions, une répartition du produit, de ces 50%-là du produit, en fonction des échanges et des usages sur Internet, ce qui soulève énormément d'interrogations sur la possibilité de le faire, auxquelles j'ai tenté d'apporter des réponses. Je constate que les sociétés de gestion collective, quand on leur pose la question, ils disaient quand même, ça va peut-être se faire un jour, alors on va pas dire que c'est pas possible, parce que nous on sait que ça l'est. De ce point de vue-là, tout ce que je demande, c'est des études indépendantes, de faisabilité et d'impact, un véritable débat qui ne soit pas encadré pour exclure ce type de proposition a priori, et dont la direction ne soit pas confiée à un intérêt privé particulier, comme dans le cas de la mission Zelnik.
Bon, Vincent Frère-Beau, est-ce qu'il n'y a pas quand même là une piste de réflexion intéressante quand on sait qu'effectivement, les usagers aujourd'hui téléchargent de plus en plus et échangent de plus en plus les fichiers? Est-ce qu'on ne peut pas arriver à une monétisation, je reprends l'expression, de ces échanges qui pourraient servir à la profession, il y a la création artistique in fine.
Il y a deux choses à pas confondre. Ouais. Ce que disait Franck Riester tout à l'heure, la monétisation des échanges, le paiement d'un forfait, et avec en contrepartie une liberté pour les internautes. Moi, j'aime pas dire les internautes, c'est les gens, parce qu'on est tous internautes.
Oui, bien sûr. Ouais.
Une liberté pour les gens de faire absolument ce qu'ils veulent. Bon, ça, c'est la fin garantie de ce qu'on appelle l'offre légale en ligne aujourd'hui, parce que tout le monde comprendra bien qu'une fois qu'on a payé une fois et qu'on a droit avec fort de ce paiement, on a droit de tout faire, on va pas payer une seconde fois. C'est comme ça pour tout le monde. Après, je dirais une chose, c'est que finalement, je vais faire peur à Franck deux secondes, mais cette idée de contribution créative est pas forcément si folle que ça, sauf que telle qu'elle est proposée par Philippe Aigrin et telle qu'elle est soutenue par les socialistes, et alors ça c'est assez amusant parce que ça va à l'encontre d'un autre débat qu'il mène pour l'instant sur la taxe carbone, elle est payée par les gens. Il faut pas qu'elle soit payée par les gens. Une contribution à la création, oui, bien sûr,
mais
la contribution à la création doit se faire par les gens qui ont construit un business sur un autre. Et aujourd'hui, les gens qui ont construit un business sur un autre, c'est le monde de l'Internet. Et là, on parle, si on oppose, si vous voulez, les chiffres de la création de la musique en France, où on est un espèce de global qui se trouve situé aux alentours de 550 millions d'euros, contre le chiffre des opérateurs telco qui est de 44 milliards d'euros. Excusez-moi, mais enfin, une mesure vraiment différente, et il faut que cette contribution créative, à l'instar de ce que dit Monsieur Aigrin, c'est pas une contribution créative, c'est une taxe qui doit venir, qui ne doit pas être payée par les gens, qui ne doit pas être payée par l'internaute, qui doit être payée parce que à un moment une industrie s'est construite sur une autre et qu'elle doit contribuer à son soutien. C'est tout.
Mais sans que ça ne se substitue, voilà, au fonctionnement actuel du marché. Ça vient en plus, c'est un complément.
Ça vient en plus
de rémunération.
Voilà. Et sans contrepartie pour les gens, c'est-à-dire que les gens ne se retrouvent pas d'un seul coup dans la capacité de faire absolument n'importe quoi avec les offres sur Internet. Si on monétise le marché, ce que Philippe Aigrin appelle le hors-marché, il y a plus de hors-marché. Si on monétise ça, si on fait payer ça, le hors-marché devient le marché. Et à ce moment-là, ça sera le montant total de cette contribution créative qui sera l'intégralité du marché.
Alors quand même, Franck Riester, est-ce que vous ne vous coupez pas là avec cette loi Hadopi ? Et c'est vrai que sur le papier, cet échange de pair à pair est extrêmement séduisant, parce qu'on sait que les jeunes le pratiquent énormément. Est-ce que vous ne vous coupez pas une frange entière là aujourd'hui des internautes, et que la solution, ce serait peut-être d'avoir un mix du téléchargement légal et puis de cette licence spéciale ? C'est pas possible d'arriver à un mix, hein ?
Écoutez, de toute façon, c'est un système qui doit évoluer. On sait bien qu'Internet ça bouge, que la culture sur Internet ça bouge, et qu'il faut rester toujours concentré et faire évoluer nos dispositifs. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle Frédéric Mitterrand a souhaité qu'il y ait une mission spécifique sur le développement de l'offre légale sur Internet, qui soit menée, qui va rendre ses conclusions à la fin de l'année.
Déjà,
pas Hadopi 3. Hadopi, c'est l'autorité administrative indépendante qui va avoir comme mission de surveiller le téléchargement, de lutter contre le téléchargement illégal et de favoriser l'offre légale. Donc cette autorité administrative indépendante, elle va faire son travail et elle va pouvoir bénéficier d'expertises extérieures comme celle de la mission Zelnik, et comme le travail que nous faisons dans le cadre de la commission des affaires culturelles à l'Assemblée nationale, par exemple, pour enrichir le débat. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut, à travers tous ces débats et à travers ce projet de loi, expliquer aux Français que la culture, ça a un prix et qu'il est essentiel que les Français participent au financement de cette création, financement de la culture. S'ils veulent continuer à avoir une exception culturelle auquel ils sont si attachés, il faut qu'ils aillent vers des offres légales sur Internet plutôt que de télécharger illégalement.
Alors, Philippe Aigrin, cette légalisation des échanges de musique et de films entre internautes, donc ce partage des fichiers qu'il faudra bien rémunérer en quelque sorte les droits d'auteur sur le trafic, comment faire en sorte qu'on puisse bien rémunérer à la juste valeur quelqu'un, qui a été téléchargé simplement 300 fois un extrait sonore ou un petit film, par exemple. Comment on fait ? On arrivera à repérer le trafic ?
Alors, j'ai étudié précisément à quel niveau on pouvait arriver à le mesurer. Et comme je n'ai pas l'habitude de faire de la démagogie, j'ai montré qu'il y avait des seuils de niveau d'usage sur Internet minimal pour qu'il soit possible sans intrusion.
Alors à combien
ça dépend de chaque média.
Parce non, mais en gros pour les disques,
Non, mais vous pouvez pas savoir parce que ça dépend du nombre de téléchargements. Or, la proportion, contrairement à ce que voudraient parfois nous faire croire, pas des gens rigoureux comme Vincent Frerbeau, mais d'autres acteurs, un téléchargement n'est pas une vente perdue. À l'heure actuelle, même tous les gens sérieux savent que le partage de fichiers n'est pas un trou noir dans lequel toute l'économie de la création va s'effondrer.
Allez,
je vous invite à lire le chapitre 9 d'Internet et création, dans lequel, en fonction du nombre d'œuvres concernées dans un média donné et en fonction du nombre de gens qui participent à la mesure, on peut voir précisément combien de téléchargements sont nécessaires. Autour de quelques centaines, on est au seuil de détection.
Allez, nous marquons la pause. Il y a un auditeur là qui m'écrit et qui dit en même temps, oui, mais un artiste, ça doit se rémunérer dans un concert et pas sur Internet en quelque sorte. Ça, c'est un peu une pique pour vous, monsieur Frerbeau. Vous pourrez réagir après la pause.
Les grands débats. Arnaud Fleury sur BFM Radio.
Les grands débats, c'est aujourd'hui que les députés doivent voter solennellement le texte sur le projet de loi Hadopi contre le téléchargement illégal, le célébrissime projet de loi Hadopi. Aujourd'hui, tant il y a eu de feuilletons le concernant entre les censures par le Conseil constitutionnel et puis l'indiscipline de l'UMP qui fait que la loi Hadopi 1 avait pu être rejetée par l'opposition. On s'en souvient, Franck Riester, député maire UMP de Coulommiers et rapporteur de la loi Création et Internet. Philippe Aigrin, vous êtes le fondateur de la Quadrature du Net, c'est un des collectifs qui s'oppose à la loi Hadopi. Et puis Vincent Frerbeau, vous êtes le président de l'Union des producteurs phonographiques français indépendants. Mais vous êtes le producteur, entre autres, de Thomas Fersen et de Vincent Delerme. Je le disais tout à l'heure, il y avait un auditeur qui disait que aujourd'hui, un artiste, ça doit gagner sa vie sur la route et non pas sur Internet. En même temps, il y en a un autre, c'est Eric Aévry qui m'écrit, qui dit « Oui, ok, sur le principe de ne pas faire payer les internautes, mais in fine, ce sont bien eux qui paieront si jamais on oblige les FAI, par exemple, les fournisseurs d'accès à Internet, à payer une taxe, estime cet auditeur.
Si cette taxe n'est pas répercutée sur l'internaute, c'est pas l'internaute qui va la payer. Et sur l'auditeur précédent, c'est vraiment méconnaître la chaîne de la création, parce que lorsque vous achetez de la musique enregistrée sous la forme de fichier ou sous la forme de disque physique, vous rémunérez pas une personne, vous rémunérez d'abord évidemment la chaîne de distribution, et vous rémunérez toute la chaîne de la création, du musicien à l'arrangeur, au graphiste, au photographe, au technicien son. Vous rémunérez tout ça. Arrêtons. Je veux dire, quand on mange au restaurant, on ne paye pas ce qu'on a dans l'assiette, le prix de la matière première. On paye le cadre, les serveurs, le pas de porte, le talent du cuisinier, on paye tout ça. Donc pourquoi aller disséquer et dire, et comment peut-on dire l'artiste doit gagner? C'est totalitaire, c'est horrible comme propos.
Franck Riester, j'ajoute là-dessus parce que c'est important. Moi, ça fait des mois effectivement qu'on travaille sur ce sujet-là. Et je comprends pas un certain nombre de nos concitoyens qui sont très fiers de leur création, qui sont très fiers de leurs artistes, qui sont très fiers de leur exception culturelle. Et quand il s'agit de réfléchir à la façon dont on les finance, la façon dont on les rémunère, la façon dont on fait vivre ces gens-là, eh ben ça y est, on est dans les préjugés, on est dans les caricatures, on est dans les simplifications. Je crois que vraiment, il faut connaître de près le fonctionnement de nos filières culturelles pour pouvoir dire d'une façon très claire qu'ils ont besoin de financement et que c'est rien de choquant de dire simplement qu'à travers Internet, la consommation de biens culturels sur Internet, ils ont aussi besoin de financement et que c'est logique que les Français participent à ce financement-là lorsqu'ils consomment ces biens culturels sur Internet.
Et alors faire payer le fournisseur d'accès à Internet, pour reprendre ce que nous disait donc Éric Dévry, qui dit de toute manière, si on le fait, in fine, ils le répercuteront sur leur facture et ce sont nous qui paierons quand même à la finale.
Non, pas directement. Ce qui est certain, c'est que moi je suis favorable à ce qu'on réfléchisse à des nouveaux modes de financement complémentaires à ceux qui existent aujourd'hui, mais on ne peut pas passer à côté d'une sécurisation de l'environnement juridique sur Internet pour pouvoir éviter la concurrence déloyale du piratage aujourd'hui pour que se développent des offres légales et des financements pour la création.
Alors, il y a un auditeur
ça ne peut
là,
pas se substituer à ça.
Il y a un auditeur là qui vous défend, monsieur Frerbeau, il dit qui vole un œuf vole un bœuf en quelque sorte, on a le choix de télécharger ou pas, et si l'on télécharge, il faut savoir prendre évidemment ses responsabilités, nous dit-il. Alors quand même, beaucoup d'auditeurs qui nous envoient des mails pour dire que tout cela ne sera pas appliqué de toute manière parce que ce sera une usine à gaz et que la technologie ira toujours plus vite. Qu'est-ce que vous répondez à ça très rapidement parce que l'heure tourne, Vincent Frerbeau. Vous allez me dire, moi c'est pas tellement mon business en quelque sorte, mais quand même, il n'empêche, sur 30 secondes, vous reconnaissez est-ce que c'est pas un combat perdu d'avance, même pour les artistes, pour les producteurs.
Parce non, mais c'est sûr qu'à force, de le répéter, c'est ce qu'on va finir par croire. Mais malheureusement, j'ai tout à fait confiance, moi. Vous savez, il faut, faut comparer ce qui est comparable. Les comportements évoluent fonction des cadres qui sont édictés. Par exemple, je me souviens avoir, moi, transgressé un truc qui s'appelle le code de la route parce que finalement, c'était facile de le faire. Mmh. Et du jour au lendemain, je suis pas pour autant un terroriste, je suis pas pour autant un voleur. Et aujourd'hui, je le fais plus parce que.
De la sanction,
c'est à cause de la sanction et c'est à cause aussi de la prévention, c'est grâce plutôt à la prévention, grâce aux sanctions où j'ai finalement modifié mon comportement. Je suis pas pour autant un terroriste tout ça. Et je pense que les gens aujourd'hui vont effectivement faire évoluer leur comportement parce que derrière une sanction, on peut pas en vouloir à des gens qui sont suréquipés, qu'on a suréquipés. Moi, je ne veux pas criminaliser les internautes. On peut pas leur en vouloir d'utiliser l'équipement qu'ils ont puisqu'il n'y a pas de cadre. Aujourd'hui, on veut faire un cadre, on doit faire un cadre. Et c'est là que ce cadre va être extrêmement utile et qui va faire évoluer les comportements.
Allez, très rapidement, Philippe Aigrin, est-ce que vous croyez qu'il peut y avoir quand même un discours de responsabilité, que ça puisse faire son œuvre alors
Le discours de responsabilité, je crois que
comme on l'a vu sur les points,
Et bien pas la seule. Et d'autre part, en ce qui je me réjouirais nullement de voir une loi inapplicable de plus s'empiler, mais ce que je pense, c'est qu'il est profondément non pertinent d'essayer de priver les gens de la capacité fondamentale d'être des distributeurs de la culture.
Alors, Franck Riester, très rapidement, une usine à gaz, pas applicable, et puis en plus, ces sanctions graduelles. Il y avait un auditeur qui me disait le risque de se faire piquer, c'est comme celui de gagner au loto, quoi, en quelque sorte. Je risque pas de me faire prendre. Alors,
d'abord, on n'a jamais prétendu qu'on allait éradiquer totalement le téléchargement illégal sur Internet. On veut simplement le réduire massivement. Oui, mais c'est important. Et on veut le réduire massivement en rendant bien plus complexe le téléchargement illégal et en faisant en sorte de faire prendre conscience aux internautes d'abord de leur responsabilité civique en matière de financement de la création et d'autre part, s'ils récidivent, après moult avertissements, qu'ils s'exposent à une sanction qui est la suspension de l'accès Internet, qui est finalement l'outil qui leur permet aujourd'hui de voler des fichiers, de voler des artistes.
C'est simplement ça. Combien d'internautes en année pleine? Vous avez une estimation? Allez,
non, il y a différentes estimations.
Non, mais dites-moi, c'est quoi? C'est 5 000, 10 000, 50 000 personnes?
C'est un nombre important de personnes qui vont être averties.
Ouais.
D'abord parce que c'est ça qu'on veut faire, avertir les gens, faire de la pédagogie. Et éventuellement, pour les récidivistes, parce qu'il s'agit de récidivistes, d'avoir une sanction. Mais on ne veut pas, sur le principe, faire en sorte que la sanction s'applique. On veut que les internautes modifient leur comportement, comme l'a dit Vincent Prerbeau, qu'ils prennent conscience qu'il est impératif pour notre société de financer sa création.
Alors, Vincent Prerbeau, très rapidement, est-ce que ça peut faire baisser le prix du CD ou le prix de l'entrée en salle, puisque finalement, vous seriez mieux rémunéré sur tout ce qui est du téléchargement? Beaucoup d'auditeurs disent, mais attendez-moi, un CD à 20 euros et une place de cinéma à 10, c'est non pour moi, donc je télécharge illégalement.
Ouais, ok. Ouais. Les exemples sont à l'infini. Le prix de la musique, quand il passe du physique au numérique, il baisse de 30%. C'est toute la part. D'abord, le 20 euros pour un CD, c'est un truc qu'on entend beaucoup, mais qui est faux. La plupart des CD en nouveauté sont aux alentours des 15 euros.
Et en numérique,
il faut le redire. Et juste deux choses. En numérique, il faut le redire, c'est à moins de 10 euros, puisqu'aujourd'hui, c'est plutôt à 9,99 sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Et d'autre part, il faut rappeler, vous parlez de diffusion de la culture et d'accès à la culture, il faut rappeler qu'il y a des systèmes aujourd'hui légaux d'écoute de la musique sur Internet, sur des sociétés comme Spotify, comme Deezer et d'autres, et que ces systèmes-là permettent ne suffisent pas à rémunérer la création, mais permettent sa rémunération, car les lectures des chansons sont identifiées.
Bon, ben merci à tous les trois. On va conclure avec vous, Philippe Aigrin, quand même, et donc votre idée, vous, de qu'on puisse échanger, pour le bien de la création, les fichiers cinéma ou disque. Vous pensez quand même que la question va se reposer et qu'un jour, on arrivera à ça?
Je suis persuadé que la question va se reposer. Vous savez, dans mon livre, je l'ai conclu en disant on est en 2018 et c'est en place. Mais surtout, on est au lendemain de la remise du rapport de la commission Sehn-Stieglitz. Je peux vous dire que la difficulté qu'on a à considérer qu'une économie peut coexister avec une sphère hors marché est atterrante. Elle montre qu'il y a encore beaucoup de pédagogie à faire.
Merci à tous les trois d'avoir notre compagnie. Merci, monsieur Riester. Bon courage, cet après-midi, en espérant pour lui.
Ça va aller.
ça va aller.
Le texte passe. Oui, on peut penser que cette fois, toutes les précautions ont été prises. Merci Vincent Frère-Beau, donc pour l'Union des producteurs phonographiques français indépendants. Et puis donc, Philippe Aigrin, bon courage, monsieur, pour votre combat, pour votre contribution financière créative sur donc les échanges de fichiers. Très bonne journée. Et nous, on se retrouve dans un instant pour prendre le volant et passer la vitesse supérieure. Nous partirons à Francfort, le salon de l'auto. Les constructeurs qui espèrent sortir de la crise et puis qui planchent sur les modèles électriques.